Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Père, nous voulons te remercier pour ta parole
et
pour ta grâce encore, Seigneur. Merci d'avoir envoyé Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu t'es donné pour nous. Et Seigneur, tu t'es donné non pas parce que tu voulais mourir sur une croix, mais tu t'es donné pour nous ouvrir le royaume. Et nous voulons encore te remercier ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alors, comme nous sommes dans les périodes de Pâques, nous allons bien sûr parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais parler particulièrement la perspective, ce pourquoi Jésus s'est réellement donné à la croix. Parce que vous savez, souvent, Pâques, c'est là où on va décrire les souffrances de Jésus. On vous a fait suffisamment d'enseignements là-dessus. Ou souvent, les gens décrivent l'aspect extérieur de la croix. Jésus qui saigne de partout. Jésus qui, on voit qui se fait flageller, la couronne d'épines, les clous, etc. etc. Bon, nous savons, et vous avez suffisamment d'enseignements là-dessus, que quand Jésus a été cloué sur cette croix, il a été fait malédiction et il est devenu ce que nous étions. Il y a eu un transfert de la nature du péché dans son esprit et il nous a racheté légalement du péché, de la pauvreté et de la maladie. Et toutes ces choses-là, nous enseignons là-dessus quand nous faisons Pâques. Mais aujourd'hui, j'aimerais insister sur quelque chose que Jésus a dit pendant la Pâques. Nous allons commencer à prendre un texte, donc par un texte dans Matthieu chapitre 26. Et nous allons lire jusqu'au verset 29. Et là, aujourd'hui, c'est le verset 29 qui va m'intéresser. Parce que j'aimerais vous amener dans un excellent voyage. Pour vous montrer que la Pâque a été un événement fondamental. Mais que Jésus est le Père. Lorsque Jésus a été crucifié et qu'il est mort, ne voyait pas les 3 jours simplement qui allaient s'exécuter. Il voyait beaucoup plus loin vers l'éternité. Et vous savez, ça c'est un problème qu'on a, nous les chrétiens, c'est que souvent on va décrire des événements sans voir la perspective de l'éternité. Donc nous savons que Jésus va partager la Pâque, la dernière Pâque. Et rappelez-vous que le mot Pâque veut dire passer au-dessus d'eux. Ça veut dire ni plus ni moins, c'était dans Exode chapitre 12. Et en fait, rappelez-vous, c'est Dieu qui avait ordonné au peuple juif, au travers de son serviteur Moïse, que tous les Israélites devaient prendre un agneau sans défaut, qui devait le préparer d'une certaine façon, prendre du sang de cet agneau et puis le mettre sur les linteaux des portes. Et à ce moment-là, l'ange qui allait passer, l'ange du jugement de Dieu, qui allait faire mourir tous les premiers-nés d'Égypte, allait passer au-dessus d'Israël, de toutes les maisons qui allaient obéir à ce que Dieu avait demandé. Donc nous savons que ça, c'est la Pâque qui s'est produite à peu près 1500 ans avant Jésus. Et lorsque Dieu a frappé l'Égypte, il n'a pas touché au premier-né du peuple d'Israël. Il est passé au-dessus d'eux. Ça veut dire la Pâque. C'est le mot Pâque veut dire ça. Passé au-dessus d'eux. Le jugement qui passe au-dessus d'eux. Alors, bien sûr, Jésus, ce n'est pas par hasard qu'il est mort pendant la Pâque. Rappelez-vous d'une chose. L'Ancien Testament est une ombre, c'est-à-dire que ce sont des images. Dieu pouvait donner seulement une alliance limitée aux Juifs. La Bible nous dit clairement que la réalité est en
Christ.
Paul dira que la vraie Pâque, c'est Jésus. C'est le vrai agneau de Dieu qui va se donner pour l'humanité. Ça, c'était pour mon introduction. Maintenant, regardons ensemble à partir du verset 26. Matthieu 26, verset 26. Et nous allons relire jusqu'au verset 29. Alors, pendant qu'ils mangeaient, donc ils sont dans la Pâque, le repas de la Pâque où Jésus va se donner. Et il dit, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Il prit la coupe, pardon. Remets le verset 26, s'il te plaît. Là, tu mets 26, 27, 29, 29, 26, 27, 29, 26. Alors, ça m'est difficile de lire. Alors, reprends verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. On va déjà lire ces versets-là en Kirundi, merci. Donc je vous rappelle qu'ici Jésus prend des symboles, le pain et le vin. Et il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est un symbole. Jésus n'a pas pris un couteau. Il n'a pas coupé un morceau de sa chair en disant ceci est ma chair. D'accord, donc c'était un symbole ici. Il ne s'est pas ouvert une veine. Il n'a pas fait couler du sang dans la coupe en disant voilà c'est mon sang. Jésus parlait d'une façon symbolique bien sûr sur ce qu'il allait faire quelques dizaines d'heures plus tard sur la croix. Il
n'y
a rien de mystique ici, il y a simplement des symboles.
Hein,
c'est bien, ça c'est bien ce qu'il faut comprendre dans ce texte. Donc souvent nous connaissons très bien ce texte, nous en servons pour la Sainte Cène. Nous expliquons notre alliance en
Christ.
Mais maintenant je voudrais qu'on étudie le verset 29. C'est intéressant, c'est là où je vais en venir ce matin. Jésus dit, donc après avoir fait ça, après avoir fait la Sainte Cène, il dit, je vous le dis, instituer la Sainte Cène, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Jusqu'à temps que j'en reboive à nouveau. Il dit, j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire ici? Jusqu'au jour où? Quel est ce jour dont il parle? Eh bien, nous allons étudier deux textes parallèles qui vont nous éclairer. Rappelez-vous d'une chose, ne prenez pas un texte biblique, comme beaucoup le font, et commencez à l'interpréter comme vous avez envie de l'interpréter. Non, ça, on ne fait jamais ça. On ne peut pas prendre ce texte-là et dire, ben voilà ce que ça veut dire. Non, nous allons découvrir quelque chose d'intéressant. Jésus institue la Sainte Cène et dit, voilà, moi, personnellement, je ne reboirai plus de cela, ce vin, jusqu'au jour où nous serons de nouveau avec vous dans le royaume de mon
Père.
Regardons ensemble deux autres textes. Nous allons regarder Marc 14, verset 25. Donc, Marc 14, verset 25. C'est le passage parallèle que vous allez trouver sur l'institution de la Sainte-Seine. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu ici. Maintenant, regardons Luc 22. Et là, on va voir un éclairage qu'on n'a pas eu dans les deux autres textes. Encore passage parallèle. Je vous rappelle que les trois premiers évangiles s'appelle ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent, qui racontent à peu près les mêmes faits. Jean est très différent au niveau des faits, des événements qui sont relatés. Donc les trois évangiles ici nous relatent les mêmes événements, mais avec quelques petites différences qui nous aident. 22 verset 18, il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu.
Eh
bien, nous allons étudier une notion, un événement qui va nous montrer ce que ce texte veut dire. Et ça va être ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Et certains vous disent, c'est quoi ça?
Bien,
vous allez voir que c'est un événement qui nous est décrit dans la parole de Dieu et qui va se produire. Et je vais vous montrer quand. Nous n'avons pas beaucoup trop de détails sur la façon dont les choses vont se faire. Mais c'est assez intéressant d'étudier la parole. Vous savez, Dieu d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu est un Dieu de partage. Il nous aime, il aime sa créature. Rappelez-vous, il n'y a pas eu de Jésus pour les animaux, il n'y en aura pas. Même pour les anges qui ont péché, qui sont devenus des démons, il n'y en aura pas. Dieu le Fils est venu seulement pour qui? Pour nous les hommes. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être humilié, crucifié. Lui, le propriétaire de l'univers, qui est venu en chair il y a 2000 ans, il a simplement accepté de donner sa vie parce que derrière tout cela, il voyait le royaume. Il voyait le fait que vous et moi, nous régnerons avec lui pour l'éternité. Dieu est un partageur. C'est quelqu'un qui partage avec nous. Il propose. Et l'homme choisit. Nous allons voir certaines paraboles. Vous allez comprendre certaines choses. D'abord, je voudrais lire Luc chapitre 12, verset 32. La Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour émane de la nature de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous aimait alors que nous étions ses ennemis. Il nous aimait et il est mort sur cette croix alors qu'il savait un jour que nous serions ses ennemis. Jésus va dire à un moment à ses disciples, ne crains point petit troupeau, car le Père a trouvé bon de quoi de vous donner le royaume. Le royaume, c'est là où Dieu règne. Et Dieu va venir récupérer la gestion de sa propriété, la terre. Et il va venir installer son royaume ici. D'abord, il va le restaurer. Et ça se passera quand la Bible nous parle du millénium, le règne de 1000 ans de Jésus. À Jérusalem, où Israël deviendra la première nation du monde. Et Jésus va régner à Jérusalem. Et il régnera avec nous. Et ça s'appelle le millénium. Mais ce n'est pas une finalité. Le millénium n'est pas une finalité dans le règne de Jésus. C'est simplement une étape. C'est l'accomplissement de prophéties pour Israël. Où la Bible déclare, c'est déclaré à son peuple d'Israël, que son peuple régnerait sur le monde. Et ça s'accomplira au travers du millénium. Mais Israël a tellement désobéi que Dieu a fait des promesses en envoyant son fils à un peuple de toute nation, de toute langue, de toute race, ceux qui l'accepteront, qui accepteront son fils Jésus et qui le recevront comme sauveur personnel. Il y a un certain nombre de paraboles dans la Bible qui sont vraiment intéressantes à étudier de ce côté. Dans Matthieu chapitre 22, nous allons lire toute une parabole. Je vous rappelle que dans une parabole, il y a un certain nombre d'images. Et ce sont des images que Jésus nous donne pour nous donner la compréhension. La compréhension souvent sur des événements futurs. Et là, il va donner une parabole dans certains contextes. Parce que juste avant ce chapitre 22, Jésus avait reproché aux Juifs ce qu'ils avaient fait. Et particulièrement, il va donner un peu plus haut au chapitre 21, à la fin du chapitre 21, on ne peut pas lire ces deux paraboles, ça serait trop long. Mais il va donner une parabole avec un propriétaire d'une vigne. Et cette vigne devait être gérée correctement. Et cette vigne n'a pas été gérée correctement par les gestionnaires à qui le propriétaire avait donné la gestion. Et évidemment, c'était Israël. Israël devait gérer les biens du royaume. C'est eux qui avaient reçu la connaissance de Dieu. Le peuple choisi par Dieu. Et c'est eux qui devaient gérer cette connaissance. Obéir à Dieu. Et aussi amener cette connaissance sur toute la terre. Ils ont lamentablement échoué. Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, ils les ont tués, et ils ont fait toutes sortes de choses. Après, Jésus dit dans cette parabole, et le propriétaire de la vigne envoie son fils, il le maltraite, il le met à mort. C'est pas compliqué à comprendre cette parabole. Évidemment. Alors après, Jésus va donner une autre parabole. Et c'est la parabole des noces. Donc, on va lire ensemble donc, du verset 1 jusqu'au verset 14. Et on va découvrir derrière tout cela ce que le Seigneur montre à son peuple. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, verset 2, « Le royaume des cieux est semblable à un roi, regardez bien, à un roi qui fit des noces, donc un mariage, pour son fils. » Verset 3, « Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. » Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mon grand repas. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Verset 5, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. » Verset 7, « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Verset 8, « Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes. » Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Verset 9, allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous voulez trouver. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Verset 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 14, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. On ne va pas lire en Kirundi, c'est un peu long. Alors, ici, il va y avoir donc une parabole très simple à comprendre. Il y a un roi qui va faire des noces, qui prépare un mariage pour son fils. Rappelez-vous, nous avons commencé avec un texte où Jésus a dit que je ne boirai plus de cette coupe, tant qu'en fait le royaume de Dieu ne sera pas venu. Et la plupart des commentateurs bibliques disent que ce jour dont Jésus parlait, c'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau. Il y a de très belles images entre Dieu et son Église. Nous allons en parler dans quelques minutes. Ici, Jésus donne une parabole. Et dans cette parabole, il y a un roi qui fait un mariage pour son fils. Il prépare tout. Et d'abord, il y a un premier groupe de conviés. Et ce premier groupe de conviés, ils refusent de venir. Ils tuent même des gens que le roi envoie. Ils se comportent n'importe comment, alors qu'ils étaient les premiers invités à cette noce. Et en fait, les premiers invités à cette noce, c'est évidemment l'image d'Israël, qui avait été invité au départ et qui a fait n'importe quoi avec la connaissance de Dieu. Et ils se sont retrouvés à ce que Dieu donne la gestion du royaume un peuple qui serait digne. C'est exactement la conclusion de la parabole du chapitre 21 que nous n'avons pas lu, de l'histoire de la vigne et du propriétaire de la vigne. Et les premiers donc qui étaient invités à cette noce pour le mariage du fils du roi, et vous comprenez qui est le roi, qui est le fils du roi, j'espère, le père et Jésus qui va faire son mariage avec son épouse. Alors, doucement, Bassi, tu vas trop vite. On verra après, effectivement, que c'est l'Église. Mais pour certains d'entre vous qui avaient peu de notions, on essaie d'y aller doucement. Parce que quand, ça, c'est le genre d'enseignement qu'on fait assez rarement. Donc c'est important de construire petit à petit. Et en fait, ici on voit bien que Jésus est en train de se transposer dans l'éternité. Le roi veut faire un mariage avec une épouse pour son fils. Quand est-ce que ce mariage va se faire? Quand l'épouse sera prête. Alors là, d'abord il y a des conviés à ce mariage. Les premiers conviés échouent complètement. Et ils sont rejetés. Ensuite, le roi dit, il n'est pas content, il est en colère. Et il dit, non, maintenant il faut aller chercher d'autres personnes. Des gens qui vraiment vont se comporter correctement par rapport à l'invitation. Et évidemment, on peut continuer un peu dans les versets pour rechercher un peu plus loin. Merci. On continue, verset 6, encore, outragé rituel, ça c'est Israël. Le roi fut irrité, donc brûler la ville, etc. Jérusalem n'a pu exister à partir de l'an 70. Et la conclusion, c'est que les premiers conviés n'étaient pas dignes. Verset 9. Donc voilà, maintenant on appelle d'autres personnes. Et évidemment, les autres personnes, ça va être l'Église. Tous ceux que vous trouverez. Et ils vont partout. Et ils cherchent. Ils cherchent des personnes qui vont être dignes du royaume, qui vont vouloir marcher selon les principes divins. Et ça, c'est l'Église de Dieu. Cette notion d'époux et d'épouse, Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau dans le Nouveau Testament. Dieu avait appelé Israël son épouse. Mais si vous étudiez les textes de l'Ancien Testament, vous allez découvrir que Israël est devenu l'épouse infidèle. Vous trouverez ça, par exemple, dans le livre d'Osée, où Dieu va demander à Osée de se marier avec une femme prostituée. Et il va donner cette image à Israël. Osée va beaucoup souffrir de cela. Et Dieu va prendre cette image pour dire à son peuple d'Israël qu'il est comme cette prostituée, infidèle. Donc souvent, quand vous allez avoir des images dans l'Ancien Testament de Dieu comme époux et Israël comme épouse, vous allez découvrir qu'au bout d'un moment, Israël va être l'épouse répudiée parce qu'elle a été infidèle envers Dieu.
Et
Dieu va choisir une épouse digne. Et c'est pour cela qu'il va se passer un certain nombre de... Enfin, il va y avoir un certain nombre de déclarations que vous allez retrouver dans les évangiles qui sont un peu étonnantes. Regardons par exemple dans Jean chapitre 3, verset 29. D'une façon étonnante, on va voir comment Jean-Baptiste lui-même a eu cette révélation à propos de l'époux et de l'épouse. Et c'est Jean-Baptiste qui parle. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde certaines déclarations que Jean-Baptiste a faites, c'est assez intéressant. Vous savez, parce que Jean-Baptiste était prophète, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jean-Baptiste. C'était un homme qui avait reçu des révélations, qui avait des visions. Malheureusement, il a fait une grave erreur à vouloir confronter le roi de l'époque. Mais cet homme, Jean-Baptiste, ce prophète, c'est lui qui un jour a dit à ses propres disciples, il y avait des disciples, et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous trouverez ça au début des évangiles. Et il avait reçu une révélation sur ça. Personne d'autre le savait. Et lui-même, à un moment, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Au chapitre 3, ici, il fait aussi un commentaire avec la vision de l'Église. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. C'était prophétique sur l'Église. C'était quelque chose d'absolument révélé qu'ils n'ont pas compris, que personne n'a compris à cette époque-là. Donc revenons aux noces là, que le roi va faire pour son fils, au chapitre 22 de Matthieu. Donc, les premiers qui étaient conviés, c'était Israël. Ils ont échoué. Les deuxièmes qui sont conviés, c'est nous, l'Église de Dieu. Et depuis que l'Évangile est prêché, il y a cette image dans la parole de Dieu. En fait, l'Évangile, c'est ni plus ni moins l'époux qui est au ciel, Christ, qui appelle son époux, c'est-à-dire l'Église. C'est l'image que Dieu nous donne dans sa parole. La prédication de l'Évangile, quand nous prêchons l'Évangile, c'est ni plus ni moins l'époux, Christ, qui appelle son épouse jusqu'à temps qu'elle soit prête pour pouvoir faire ses noces les noces de l'agneau. Alors, cette expression, les noces de l'agneau, on va trouver cela donc dans l'Apocalypse chapitre 19. Et c'est là où on a un peu une idée sur qu'est-ce que cela veut dire, ces noces de l'agneau. On va retrouver cela juste à la fin de la tribulation. Rappelez-vous d'une chose, l'Église va être enlevée et nous allons voir ce symbole à propos du mariage d'entre l'époux et l'épouse. Et il va y avoir 7 ans de tribulation sur la terre. À la fin de ces 7 ans de tribulation, le Fils du roi, Jésus, va récupérer la gestion de la terre que Satan a eu par transfert avec Adam et Ève. Et c'est Christ qui va venir installer son royaume pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, Jésus va venir régner à Jérusalem. Et le chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est justement juste à la fin de la tribulation. Lorsque Dieu a frappé les hommes qui ont été rebelles, qui ont voulu faire une alliance spirituelle avec l'Antichrist et qui vraiment étaient jusqu'au bout de leurs abominations. Dieu a frappé les hommes et est au bout de ses jugements. Et c'est là où il va y avoir une déclaration qui va être faite. À partir du ciel. Verset 7 de l'Apocalypse 19, il est dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, au verset 9, nous avons aussi une mention sur cela. On peut lire déjà verset 8 et verset 9. On va lire ensemble. Il est dit au verset 8: et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9: et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés, regardez bien, qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera ni nziza nizo bikogwa byo kugoroka byabera. Murongo w'icyenda ati: umumarayika arambarira atandika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bw'abamwagazi w'Imana.
Alors, en fait, quand on lit ce texte-là,
et
qu'on le rapproche de Matthieu 22, on sent qu'il y a des choses communes. Les noces de l'agneau, le mariage de l'agneau. Nous savons que l'agneau, bien sûr, c'est qui? C'est Christ. Dieu le Fils, qui s'est donné, la Pâque en étant un symbole, la réalisation ayant été faite par le Seigneur Jésus lui-même, au travers de sa mort et sa résurrection. Et je vous rappelle que le royaume de Dieu est ouvert. On peut entrer dans le royaume à partir du moment où on va naître de nouveau et parce que Jésus s'est donné. Je vous rappelle que Jésus dit dans Jean chapitre 3 que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, donc qui n'a pas vécu ce miracle de la nouvelle naissance, il ne peut pas entrer dans le royaume. Et il ajoutera un peu plus loin qu'il ne peut pas voir le royaume. Donc vous voyez que tout cela, ça se recoupe. L'entrée dans le royaume de Dieu a effet faites grâce au sacrifice de Jésus. Faites que la Pâque Christ soit devenue la vraie Pâque. Qu'il se soit donné à la croix. Qu'il soit mort pour nous. Qu'il est ressuscité au bout du troisième jour. Qu'il est retourné à la droite du Père. À partir de ce jour où il a scellé notre alliance, la nouvelle alliance, alors il a ouvert les portes du royaume à tous ceux qui voudraient venir, les convier aux noces. Les convier aux noces. Tous les invités, et c'est nous. qui sont partis, qui font partie donc de l'épouse. Les invités, c'est l'épouse en quelque sorte. L'épouse de Christ, qui doit se préparer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Bible donne plusieurs images sur justement le mariage entre l'époux Christ et l'épouse, c'est-à-dire ça, donc c'est l'Église. Alors, dans les mariages en Orient, ils avaient donc trois Arabes et Israélites.
Hein,
en fait, il y avait trois choses particulières. La première, bien sûr, c'était des fiançailles qui se concluaient légalement. Et évidemment, cela nous fait penser à l'alliance que nous faisons en Christ. Et c'est l'image vraiment que le Seigneur donne dans sa parole. Le fait que tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, tu fais partie de l'Église de Dieu, et pour l'instant, l'Église est la fiancée de Christ, et elle sera unie à Christ pour l'éternité, à un moment donné, particulier. C'est l'image que Dieu nous donne entre l'époux et l'épouse. Vous savez, parfois la parole de Dieu nous donne des images pour que nous essayions de mieux comprendre. Aujourd'hui, l'époux est au ciel. L'épouse est sur la terre. Et les fiançailles se concluaient comme cela, c'est-à-dire légalement. Par exemple, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, il est là en tant qu'apôtre, il parle aux Corinthiens. Et là, il parle de la préparation de la fiancée. Avant que le mariage puisse se faire. La préparation. Nous sommes dans les cultures orientales. Moyen-Orient. Et là, on voit qu'il y a une préparation d'abord de la fiancée. Et Paul prend cette image à propos de l'Église. Où il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure.
Tous
ces versets concernent le même sujet. Dieu, donc le Père, veut faire des noces à son Fils. Il veut qu'il y ait des conviés, qu'il y ait une épouse qui soit préparée. Les premiers qui ont leur chance de devenir les héritiers, enfin de profiter du royaume, c'est Israël. Israël échoue. L'image que nous avons lue dans Matthieu 22. Ensuite, Dieu est vraiment pas content par rapport à l'attitude d'Israël. Alors, il appelle d'autres conviés de toute nation et même des Israélites. Et il va envoyer son fils pour que ce soit possible. Et à ce moment-là, il se prépare une fiancée, l'Église. Et l'Église, c'est elle qui va régner sous le leadership de Christ pendant le millénium et après pour l'éternité. C'est l'image qui est donnée. Mais cette épouse se prépare et après elle va être unie parfaitement dans les noces de l'agneau, ce que la Bible appelle les noces de l'agneau. Et c'est l'image que Dieu nous donne. Donc là nous sommes dans les temps entre guillemets de fiançailles, c'est l'idée ici, l'image. Où Dieu prépare son épouse. Ensuite, la deuxième étape qu'il y avait, c'était le fiancé qui allait chercher sa fiancée, qui allait dans la maison de la fiancée avec l'autorisation des parents, bien sûr, pour aller chercher sa fiancée. Et là, évidemment, c'est l'image de l'enlèvement de l'Église, où Jésus de son ciel, le fiancé, l'époux, va descendre. Nous le savons, c'est prophétisé dans la parole. C'est ce qui va permettre justement à l'Église d'être protégée de la tribulation. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le fiancé Christ va venir chercher sa fiancée pour l'amener dans la maison du Père. Et elle va être parée, cette fiancée, parée de parure. Et c'est là où il va y avoir les 7 ans où nous serons au ciel. Ayant nos corps ressuscités ou transformés, nos corps, ce qu'on appelle incorruptibles, et là nous serons au ciel avec Christ. Et c'est l'image du fiancé qui est venu chercher sa fiancée. Et elle va terminer sa préparation. C'est là où Dieu nous rendra sans tache ni ride. C'est ce que Paul dit d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 5. Il nous parle que l'Église va être sans tache ni ride. Et il donne l'image entre l'époux et l'épouse. C'est encore une image très forte que la parole de Dieu nous donne. Vous voyez, il y a plein d'endroits où il est parlé de Christ comme époux. Et l'Église comme épouse. Alors, il donne cette image entre les femmes et les maris. Et là, ce qui va m'intéresser, c'est le verset 27, mais on va juste lire le contexte entre le verset 22 et 27. On va lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 27, mais c'est le verset 27 qui va m'aider. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, verset 23. Car le mari est le chef, littéralement la tête de la femme, comme Christ est le chef ou littéralement la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, regardez bien ici, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Bon, ça c'est une traduction, mais on va pas faire de commentaire là. Afin, regardez bien, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Tu peux lire versets 26 et 27.
Ngo ageze ajyogesha amazi ye ijambo ngo agishire ari cengero ifise ubwiza ridafise amarabaga cyanki jebejebe cyanki kintu cyose gisa gicyo ariko ngo ribigera ridafise agasembwa.
Et en fait ici l'idée de cette épouse sans tache ni ride, l'Église, ce n'est pas l'état actuel de l'Église. L'Église aujourd'hui n'est pas sans tache ni ride. Elle n'est pas parfaite. Dans notre esprit, nous avons reçu Jésus. Il y a la perfection. Par contre, dans notre âme et notre corps, ce n'est pas la perfection, vous le savez. Et c'est pour ça que Christ a préparé son Église. Mais pendant cette période de 7 ans quand nous serons au ciel avec lui, pendant que la terre sera jugée par Dieu, pendant la tribulation, c'est là où, à la fin, cette Église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais irrépréhensible. Et à la fin de ces 7 ans, alors que sur la terre, Dieu aura envoyé tous ses jugements, Dieu, à la fin des 7 ans, de la tribulation donc, eh bien, il va faire tout à la fin, il va reprendre la gestion de sa terre, de sa propriété. Et c'est là où l'Église sera parfaitement unie avec son époux. C'est-à-dire avec Christ, en parfaite harmonie avec
Christ,
dans une perfection parfaite. Et c'est là où Jésus pourra régner avec vous et moi qui, où on aurait été amené à la perfection. Et c'est l'image que Dieu donne. Lorsque Jésus a dit qu'il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'à temps que le royaume de Dieu soit là, c'est exactement ce dont il voulait parler. Dieu va perfectionner son Église au ciel. Et nous allons retourner avec lui sur la terre
pour
régner pendant 1000 ans et puis après pour l'éternité. Là, quand au bout des 1000 ans, il aura recréé la surface de la terre. Mais l'idée toujours de Dieu, c'est que son épouse, l'Église, soit parfaite et parfaitement unie avec l'époux. Et ce jour-là, ça sera une immense fête. D'abord pour les 1000 ans et ensuite pour l'éternité. Il faut comprendre que l'évangile qui est prêché, c'est l'image de l'époux qui appelle l'épouse, qui appelle à ce que l'épouse se constitue, qui appelle l'épouse à se former, qui appelle tous ceux qui voudront venir pour le mariage de l'épouse, de venir, tous ceux qui le désirent. Et celui qui a ouvert la porte pour ça, c'est Jésus, lorsqu'il s'est donné à la croix. À ce moment-là, c'est là où il a ouvert le royaume, c'est là où il a rendu possible le deuxième appel par rapport à tous du monde entier, nous qui n'avions aucun droit aux promesses parce que nous n'étions pas des fils et des filles d'Abraham. Alors Dieu nous a regardés et a dit, comme ce peuple, ces descendants d'Abraham n'ont pas été dignes de mon royaume, ils n'ont pas été dignes de pouvoir gérer mon royaume, je vais le donner à une nation, un peuple, une épouse qui sera digne, une épouse qui va m'aimer. Je sais que les messieurs, ils n'aiment pas qu'on dise que nous sommes l'épouse de Christ, mais c'est une réalité, c'est une image, c'est un aspect d'un amour parfait entre l'Église et Christ. C'est une image que Dieu nous donne dans sa parole, qu'il faut que nous connaissions, parce que vous savez, lorsque Jésus est mort et ressuscité, il voyait l'Église et l'éternité. Il te voyait dans l'éternité. L'amour de Dieu est un amour infini. Et toujours Dieu, lorsqu'il fait des choses, il nous voit au travers de l'éternité. Nous sommes là en tant qu'êtres humains et nous nous voyons au jour le jour. Lui, il nous voit dans l'éternité. Il voit son Église sans tache ni ride. Il ne voit pas l'état de l'Église aujourd'hui. Mais il voit son Église sans tache ni ride. Il se voit dans une union parfaite avec son Église, avec ceux qui l'auront aimé, ceux qui l'auront servi, ceux qui auront dit oui. Oui, Seigneur, tu me donnes une invitation et je ne vais pas la négliger. Comme c'est dit dans ce texte de Matthieu chapitre 22, où les uns et les autres sont partis faire leur business, leur machin, leurs occupations, sans s'occuper premièrement du royaume de Dieu, sans s'occuper de leur éternité. Parce que ça, c'est la priorité d'un être humain normalement. Un être humain doit savoir ce qu'il désire, ce qu'il veut voir pour l'éternité. Rappelez-vous que l'homme n'est pas une créature temporelle. C'est-à-dire que c'est la vie ne s'arrête pas, l'existence ne s'arrête pas pour l'être humain le jour où tu meurs physiquement. La Bible est claire. Tout être qui est spirituel, qui a une nature spirituelle, va exister pour l'éternité. Et Dieu nous appelle à vivre avec lui pour l'éternité. Ça s'appelle la vie éternelle. Mais pour cela, il faut être dans le royaume de Dieu. Pour cela, il faut accepter ce que Jésus a fait ce jour de la Pâque, où réellement, quand il s'est donné pour nous, qu'il a été fait malédiction, qu'il a été fait péché pour nous, qu'il a été puni pour nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu nous a tout fait en Christ pour que nous puissions avoir un choix. Un choix qui est simple, soit de comprendre qu'un jour nous serons avec lui pour l'éternité et de nous mettre dans les conditions de Dieu. Ou soit de dire non, moi je continue à vivre ma vie telle qu'elle. Moi tout ça, je m'en fous. Ou j'ai mes idées là-dessus. Je choisis mon chemin. Si tu choisis ton chemin, sache une chose, tu ne participeras pas à l'éternité avec Dieu. Et pourtant, Dieu a des choses extraordinaires. Si seulement nous pouvions réaliser tout ce que le Seigneur a pour nous dans l'éternité, nous serions ultra bouillants pour Dieu. Et tous les inconvertis viendraient à Christ avec une immense repentance. Maintenant, c'est un choix. Seras-tu parmi les conviés
de
venir pour l'éternité dans cette image du mariage de Christ et son épouse? Où est-ce que tu vas être comme les mauvais, comme l'invité qui va essayer de s'incruster? Il y a beaucoup de choses à dire sur cette troisième personne, troisième type de personne qui est là, qui rentre sans avoir les habits de noces. L'idée des habits de noces, bien sûr, c'est d'être revêtu de la justice de Dieu. C'est-à-dire avoir ses péchés entièrement lavés et être né de nouveau. Parce que Dieu nous dit qu'il nous revêt d'un habit nouveau pour ceux qui se repentent et qui acceptent Jésus. Et c'est ça l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu. C'est ça qu'il y a derrière la Pâque aussi. C'est l'invitation divine. Dire oui, je veux accepter Jésus. Ou de dire non, je décline l'invitation. Moi, je veux vivre ma vie pour moi-même. Je choisis de vivre pour moi-même. Faire tout ce que j'ai envie de faire n'importe comment. Et Dieu ne m'intéresse pas. Ou éventuellement, quelques prières à droite à gauche. Mais quelques prières à droite à gauche ne va pas t'aider à aller au ciel. Il faut entrer dans le royaume. Parce qu'un jour, Dieu va appeler son épouse. Christ va venir chercher sa fiancée. Et c'est le jour de l'enlèvement. Nous serons enlevés dans les airs et nous irons vers le ciel, dans le troisième ciel, là où Dieu est. Et Dieu nous donne de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec l'appel. L'appel qu'il nous fait. L'appel qu'il envoie à tous les hommes.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.